إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، شخفنا الله عز وجل. On va essayer, Inch'Allah, de se faire un rappel aujourd'hui en arabe et en français pour que tout le monde profite, Inch'Allah. Et c'est un rappel qui a pour titre, en arabe d'abord, At-taqwa haqiqatuha wa atharu tahqiqiha. Et en français, c'est la piété, sa réalité et l'effet de sa mise en application. Et c'est un cours à la base qui a été donné par un cheikh parmi les cheikhs, les savants de Médine, hein, qui enseigne à l'université de Médine, qui s'appelle Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Et donc le cheikh, il commence ce rappel en disant « Ayyuhal ahibba, nahmadullaha, miraran wa tikrara, wa laylan, wa naharan, an hayya alana, wa lakum hadha al-liqa, fi hadha al-balad al-mubarak, fi hadha al-majl al-mubarak, insha'Allahu ta'ala. » Donc le cheikh, il commence ce rappel en disant, inshallah, on va essayer de le faire en deux parties pour que ce soit pas trop long pour vous. Donc si vous êtes encore là après l'Isha, inshallah, qu'on le termine après l'Isha. Il dit, ô mes bien-aimés, nous remercions Allah souvent et fréquemment, nuit et jour, qui nous ait facilité ainsi qu'à vous cette rencontre dans ce pays béni, hein, et dans cette mosquée bénie avec la permission d'Allah. Et c'est un cours qu'il a donné à l'étranger, parce qu'il n'était pas à Médine à ce moment-là, il l'a donné en Algérie dans une daura ilmiya qui est organisée. Et il dit, وَنَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰ أَنْ يُبَارِكَ لَنَا وَلَكُمْ فِي أَوْقَاتِنَا وَأَعْمَالِنَا وَأَنْ يَجْزِيَ الْقَائِمِينَ من وزارة شؤون الدينية ومديرتها. يعني يفعل رميرسيمان رزومي كما سأل رنطر ديرما دون كور يرميرسي لجان كي organizي سا تترى المنسر زافر رليجيو تترى كي organizي سا. il dit هذه أيها الأحبة، هذه المحاضرة أو الكلمة هي عبارة عن عنوانها حقيقة التقوى وآثر تطبيقها. هذه الكلمة العظيمة يعني التقوى كثير منا لعله لا يعرف المعنى الحقيقي لها، وبالتالي لا يعرف أثر تحقيقها وما يعود عليه من نفع إن شاء الله في الأولى والآخرة. ما هذه التقوى التي أمرنا الله عز وجل بها في آيات كثيرة؟ دونك شيخ يلدي نو دوموندون الله سبحانه وتعالى qu'il nous facilite la science bénéfique et l'action vertueuse. On avait déjà expliqué dans un des cours que j'avais donné dans cette mosquée, c'était quoi la science bénéfique et l'action vertueuse. Vous vous souvenez qu'on a fait le hadith de quoi? Hein? On a parlé de ça, mais un hadith plus spécifique là-dessus, quand on a parlé de quel hadith? C'est un dua qu'on dit après le salat al-fajr. C'est le hadith de Salama. Que le prophète, après avoir prié le salat al-fajr, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma arzuqni ilman nafi'an. ورزقا طيبا وعملا متقبلا في بعد الروايات صالحا. العمل الصالح الذي يتوفر فيه شرطان. العمل الصالح l'action virtueuse c'est l'action qui réunit deux conditions. C'est quoi les deux conditions? C'est l'ikhlas wal mutaba. C'est ça, c'est pour Allah Azza wa Jal et que ça conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et on avait cité un verset que vous avez dit qui regroupe ces deux conditions qui est facile à vous pour vous pour mémoriser. C'est le dernier verset de sourate Al-Kahf. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dans le dernier verset de sourate Al-Kahf? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Voilà, conformité et la sincérité sont là. Hein? Et Cheikh, il dit, chers frères, cette conférence, cette allocution a pour titre la réalité de la piété et l'effet de sa mise en application. Et donc c'est, si vous voulez, qu'on ait un peu d'esprit de synthèse, parce que c'est important que le talib ilm, il sache comment gérer une information et qu'il sache, hein, sortir avec une synthèse de ce qui a été dit. C'est quoi le sujet du cours aujourd'hui? C'est taqwa, de manière générale. Donc on va définir c'est quoi la taqwa. Et à un moment, inshallah, le cheikh va rapporter la définition de taqwa rapportée par quelqu'un qui est connu comme Talq ibn Habib, rahmatullah alayh. Et il va expliquer pourquoi Talq ibn Habib, il a donné cette définition à la taqwa. Hein? Et puis il va rapporter hein, différentes choses sur la taqwa, etc. Donc le cheikh, il dit, la réalité de la piété est l'effet de sa mise en application. Parce qu'il convient de savoir c'est quoi la taqwa, mais le but de ça c'est quoi? Eh bien c'est de mettre cela en application. Et c'est ce que disent les ulama, ils disent que le fruit de la science, c'est sa mise en application. Et c'est ça la vraie sincérité, comme ils disent certains de nos méchères, hein. Ils disent que tu apprends pour appliquer. Tu apprends pour appliquer. Et il dit, le cheikh, ce sublime mot, je veux dire, taqwa, la piété, il se peut que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas son vrai sens. Et si il y en a certains parmi nous qui connaissent son sens, eh bien, c'est un rappel. Et celui qui ne connaît pas, il apprend. Et par conséquent, ne connaissent pas l'effet de sa réalisation et ce qui en découle comme bien, si Allah le permet, dans le bas monde et dans l'au-delà. Et Cheikh, il dit, il pose une question, et ça fait partie de son bon enseignement, c'est qu'il me pose une question, et après il va répondre à cette question. Hein? Et vous voyez beaucoup de textes, hein, dans la sunna, où il y a une question qui est posée par qui? Par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et ça faisait partie de son bon enseignement, alayhi salatu wa sallam. Qui s'est donné un exemple, par exemple, dans un hadith, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a posé une question. C'est un hadith, je vous dis, c'est un hadith qui est dans Kitab Tawhid, c'est un hadith très connu. Ewa, qu'est-ce qu'il a dit à Mu'ad, radiallahu anhu arda? Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Oh Mu'ad, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs? Hein? Jusqu'à la fin du hadith. On a d'autres exemples dans la sunna. C'est comme le hadith où Wafd ibn Qays, ils sont arrivés, ils ont dit, et le prophète Azam leur a dit, atadruna ma l'iman? Est-ce que vous savez c'est quoi l'iman? Et après il leur a expliqué, c'est quoi l'iman? Il y a d'autres preuves là-dessus. Et donc, Cheikh, il dit, quelle est cette piété? C'est quoi cette taqwa dont on va parler aujourd'hui? Et le Cheikh, il dit, quelle est cette piété qu'Allah nous a ordonné, nous a commandé dans de nombreux versets? Donc ici, on déjà prend quelque chose, c'est quoi? C'est quelque chose qu'Allah nous a commandé. Et si vous avez écouté Khutbat al-Hajj que j'ai fait au début, il y a déjà quoi? Un ordre de taqwa. Dans quel verset? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hein? Par exemple. Et Cheikh, il donne certains versets du Coran. Il dit, في قوله جل وعلا وإياي فاتقون سورة البقرة وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته سورة آل عمران. فما دلالة كلمة حق في قوله حق تقاته وما هي التقوى التي قال الله جل وعلا فيها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سورة البقرة. ما هي التقوى التي قال الله جل وعلا عنها ولباس التقوى ذلك خير سورة الأعراف. ما هي التقوى التي حصر وقصر سبحانه وتعالى قبول العمل إلا من أهلها في قول جل في علاه إنما يتقبل الله من المتقين سورة المائدة. ما هي التقوى التي قال الله جل وعلا في حق أهلها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سورة القمر. Cheikh, il dit, quelle est cette piété qu'Allah nous a ordonnée dans de nombreux versets? Comme la parole d'Allah dont la traduction du sens est, et c'est moi que vous devez redouter. Surat al-Baqarah, verset 41. Et sa parole dont la traduction du sens est, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Haqqa tuqatihi. Wa alaykum salam. Surat Ali Imran, verset 102. Quelle est la signification de haqqa tuqatihi, comme il doit être craint? Et quelle est la piété au sujet de laquelle Allah a dit, c'est dont la traduction du sens est, et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Surat al-Baqarah, verset 197. Et quelle est cette piété au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est dont la traduction du sens est, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Surat al-A'raf, verset 26. Quelle est la piété dont Allah n'accepte les actions? Écoutez cette parole qui est importante. Quelle est la piété dont Allah n'accepte les actions que de ces gens? Comme dans la parole d'Allah, dans la traduction du sens est, Allah n'accepte que des pieux. Surat al-Ma'ida, verset 27. Quelle est la piété dont Allah a dit au sujet de ces gens, ce dont la traduction du sens est, les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. C'est surat Al-Qamar, versets 54 et 55. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce dont la traduction du sens est, pour les pieux ce sera une réussite. Jardin et vigne, jusqu'à la fin des versets. Donc vous voyez, il y a beaucoup de versets qui font référence à quoi? À ce qui tourne autour de la taqwa, de la piété. Et Cheikh continue, il dit, وقال جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا الآيات ما هي التقوى التي قال الله عز وجل فيها أو عنها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ما هي هذه التقوى. Et puis le chef maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à expliquer c'est quoi la taqwa. Donc pour les derniers versets que j'ai cités, il répète cette question encore une fois, pour encore montrer cette importance de cette taqwa. Il dit que la piété dont Allah dit à son sujet, ce dont la traduction du sens est, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Surat Maryam, verset 71-72. Maintenant Cheikh dit, quelle est cette piété? في آيات كثيرة في القرآن الكريم آمرة حاسة محذرة من ترك التقوى وعدت أهلها الخير وعدت أهلها الخير الكثير والنفع العميم فما هي حقيقة هذه التقوى؟ ولعل كثيرا منا يقول لأخيه أو لأحد من الناس اتق الله وكثير من الناس يكثرون كلمة اتق الله أليس كذلك؟ يقول بلى. فما معنى هذه الكلمة وما حقيقتها وكيف تعامل السلف من الصحب الكرام والتابعين مع هذه الكلمة العظيمة أقول بارك الله فيكم وفي الجميع. Et puis il va expliquer. Donc le cheikh il dit, quelle est cette piété? Il y a beaucoup de versets dans le noble Coran qui leur donnent et incitent et mettent en garde contre le délaissement de la piété et qui promettent aux pieux un grand bien et un bienfait général. Quelle est la réalité de cette piété? Il se peut que beaucoup d'entre nous disent à l'un de leurs frères ou à une personne, on entend ça, hein, Ittaqillah, crains Allah Azza wa Jal. Et beaucoup de gens disent, hein, beaucoup, tout le temps, crains Allah, ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi taqwa? Hein? Et Cheikh, il dit, n'est-ce pas, que c'est vrai que beaucoup de gens disent ça, ittaqillah, ittaqillah, etc. Hein, crains Allah, crains Allah. Il dit, mais quel est le sens de ce mot? Quel est le sens de taqwa? Quelle est sa réalité? Et comment les pieux prédécesseurs parmi les nobles compagnons et leurs successeurs se sont comportés avec ce sublime mot? Parce qu'ils sont l'exemple à suivre après le prophète assassin, parce qu'ils étaient ses élèves, les sahaba, radiallahu anhum, ardahum. Hein? Et Allah, azza wa jal, dans le Coran, nous a obligés de suivre la voie des sahaba. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, dans la sunnah, nous a obligés de suivre la voie des sahaba. Parce qu'ils étaient les témoins de la révélation. Est-ce que nous n'étions pas là? Est-ce qu'on était là pour savoir, hein, qu'est-ce qui s'était passé? Non. C'est eux qui nous ont rapporté les textes. Mais en plus, ils nous ont rapporté quoi? La compréhension de ces textes. Et ils ont vu, et ils ont appris du prophète alayhi salatu wasalam comment mettre en application ces textes. Hein? Et c'est quelque chose que vous avez remarqué quand je fais des cours, que nos frères de la sunna ils font des cours, ils insistent tout le temps là-dessus. C'est une base importante à comprendre. Hein? C'est quoi? C'est que on suit le Coran et la sunna mais sans la compréhension des sahaba radhiyallahu anhum ardahum. Et quand vous voyez toutes ces sectes et ces groupes égarés, et encore une fois une mise en garde pour les jeunes qui ne se fassent pas avoir, hein? Et quand vous analysez un peu des groupes qu'il y a actuellement en Belgique, etc., hein, on peut en citer quelques-uns comme Sharia for Belgium, etc., qui se revendiquent de la Sharia, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la Sharia, hein. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que leur problème, ils suivent pas le Coran national sur la compréhension des Sahaba. Parce que ce qu'ils font et ce qu'ils disent, c'est pas ce que les Sahaba ils ont fait, c'est pas ce que les Sahaba ils ont dit sur le Coran national. Donc c'est important de comprendre cette base. Que les textes du Coran de la Sunna, ils doivent être compris, de la manière correcte, authentique, et c'est la manière que nous a été rapportée par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ouais, on pourrait faire des cours juste là-dessus, et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah, parmi les grands savants de la communauté, hein, il a dit une très belle parole dans un poème qu'il appelait An-Nuniya. Il a dit l'ilmu qala Allahu wa qala ar-rasul, et puis c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa qala as-sahabatu wa hum ulil irfani. L'ilm, c'est quoi? C'est qu'al Allah, qu'al Rasul, et puis il a dit quoi? Allah, il a dit, le prophète, il a dit, et les sahaba, ils ont dit. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, dans son fameux traité, Usul Sunnah, il a commencé, ou Usul Sunnati Indana, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Au tout début, il a dit, At-tamassuku bima kan alayha ashabu Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et les fondements de la Sunnah sont chez nous, les gens de la Sunnah, le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons. Les ulama, ils ont expliqué ça. Ce qu'on a fait ce livre, alhamdoulilah, avec certains mashayikh, comme notre cheikh Falah Ismaili, hein. Il a dit quoi? Il a dit que pourquoi l'imam Ahmed, il n'a pas dit d'abord le Coran, il n'a pas dit d'abord la Sunna. Il a commencé directement par Sahaba. Parce que c'est là, hein, c'est là où il y a les problèmes, dans le sens où c'est là où tu vois celui qui suit vraiment le haq et celui qui ne suit pas le haq. Hmm? Parce que on entend beaucoup de slogans aujourd'hui, le haq, on a le haq, tout le monde a le haq quand tu entends les gens parler. Et il y a un poème que les Arabes disent, il a dit kullun yadda'i waslan li layla wa layla la tuqir lahum bidaka. Tout le monde dit layla elle est à moi, mais layla elle n'est pas d'accord avec eux, hein. Chacun il dit quoi? Chacun il dit moi j'ai sur le haq, hein. Quand vous regardez les gens de Sharia pour Belgique par exemple, hein, même ce mot Sharia il est trop noble pour être donné à Sharia. Il faut dire le fawda pour Belgique, c'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut les appeler, ou bien le bid'a pour Belgique, hein. Et quoi? C'est pas une riba qu'on fait sur les gens, ça c'est un tahdir, c'est une mise en garde. Ces gens-là ils font le fawda, hein. Et moi je vis en Angleterre et j'enseigne là-bas en Angleterre, et je connais ces gros genres de groupes-là, et leur base de ce groupe-là, c'est un groupe anglais qui s'appelle Sharia for UK. Faut comprendre, faut pas être naïf, ya ikhwa. Hein? Ils ont des méthodologies déviantes, ils ont des méthodologies erronées. Les ulama, ils sont pas d'accord avec ce que ces gens-là, ils disent. Aslan, hadak leur chef, la Fouad Bilqasim, il a jamais étudié chez les ulama, Aslan. Il s'est autoproclamé chef leader d'un groupe. Ikhlas, hein, et les, certains jeunes, etc., qui connaissent pas leur religion, hein, il leur a dit tawhid, il leur a dit sharia, hein, des mots qui appellent les jeunes, etc., et ils sont fait avoir. Alors, vous faites pas avoir, vous. Et c'est une mise en garde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde. Il a mis en garde sur le khawarij, il y a des textes entiers sur le khawarij. Il a mis en garde sur le bida', alors qu'à son époque, il y avait même encore d'innovation religieuse. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit qu'il allait avoir des divisions de la communauté. Il a dit qu'il y avait des sectes qui allaient apparaître et des groupes innovés qui allaient apparaître. Et il nous a dit aussi comment nous préserver de cette fitna-là, comment nous préserver de cette division-là, et comment nous accrocher à la vérité. Donc tous les enseignements sont dans le Coran et la Sunna, sur la compréhension des Sahaba. Je reviens au sujet du cours. Et tout ça, c'était quoi par rapport au fait de suivre les Sahaba, radiallahu anhum, ardahum? Et comment les pieux prédécesseurs parmi les nobles compagnons et leurs successeurs se sont comportés avec ce sublément? Et chers, il dit, j'ai dit qu'Allah vous bénisse et bénisse tout le monde. Et il va rapporter l'histoire pour laquelle cette définition que Talq ibn Habib il a donné la taqwa, il l'a dite. Donc maintenant on va retourner dans l'histoire, hein, de l'islam. On va retourner quelques siècles en arrière, hein, à l'époque de Talq ibn Habib, à l'époque de Hassan al-Basri, rahimahumullah. Et on va voir pourquoi cette définition elle a été dite. C'est important de comprendre le contexte dans laquelle cette définition, que les ulama ils ont considéré, comme on va le voir un peu plus loin, qui fait partie des définitions les plus compréhensive, c'est-à-dire les plus générales, qui englobe et qui englobe toute la taqwa. Hein, parmi les, même le Qayyim rahimahullah, il a des paroles qui vont dans le sens que, hein, c'est la meilleure définition qui a été donnée sur la taqwa. Il dit le shir, la mawaqa'at fitnat ibn al-Ash'ath, Abdurrahman ibn al-Ash'ath, ahad al-quwad li juyush alladina kanu yattabi'un al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hada al-rajul qad wallahu al-Hajjaj ala Sijistan. وأرسله لقتال رتبيل ملك الترك الكافر لقتاله وفتح البلاد إلى غير ذلك. Lorsque l'épreuve d'Ibn al-Ash'ath, il y a des mots qu'on va citer, c'est pour les frères qui n'ont pas beaucoup étudié dans l'histoire de l'islam, etc., hein, la communauté de l'histoire de l'islam et des musulmans, eh bien, essayez de retenir un peu ces noms-là. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ibn al-Ash'ath. Ibn al-Ash'ath. Il s'appelle de son nom complet Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Il y a une fitna qui est arrivée à son époque. Lui qui était un des généraux des armées qui dépendaient d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hein, peut-être que certains des frères, ils ont déjà entendu ce nom-là, qui ont un peu étudié cela, ou peut-être certains de nos frères qui sont un peu plus âgés en âge, ils ont déjà entendu ce genre de nom-là, etc. Hein? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Donc vous avez Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, et vous avez qui? Ibn al-Ash'ath. Ibn al-Ash'ath, c'est le général des armées de l'autre. D'accord? Donc c'est qui est au-dessus de l'autre? Hein? C'est Ibn al-Hajjaj, il est en dessous de l'autre. C'est lui le général de l'armée de l'autre. Hein? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, c'est lui qui est au-dessus d'Ibn al-Ash'ath. Et il dit, Al-Hajjaj avait placé cet homme à la tête du Sijistan, c'est une région. Il avait envoyé combattre Rutbil, le roi des Turcs à l'époque, qui était mécréant, et conquérir les pays, etc. Et qu'est-ce qu'il y avait entre ces deux personnes-là, Ibn al-Ash'ath et Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi? Il dit que, وَكَانَ الْحَجَّاجِ أن عبد الرحمن بن الأشعث وبينه وبين الحجاج شحناء وبغضاء بين الاثنين. وكان الحجاج من شدة بغضه أراد أن يبعده عن أنظار خليفة المسلمين في ذلك الوقت عبد الملك بن مروان. فسألوا بتتخكي بوكو بليكوني عبد الملك بن مروان. دكم يانا دنو متنا ونا تخوانو زي كي زي ابن الأشعث كان جنرال دو لارمي دو كي الحجاج بن يوسف الثقفي. اي وزافي تخوازيام بيرسون كي كي الكاليف ان فيت ها سي كي على ايبوك سي عبد الملك ابن مروان. فأبعده إلى سجستان وكل منهما يتحين للآخر. فلم يره يوما ابن الأشعث لم يرى الحجاج يوما إلا هم بقتله إلى هذه الدرجة من الشحناء. شيخ يلدي il y avait entre ces deux personnages là عبد الرحمن ابن الأشعث الحجاج ابن يوسف الثقفي une haine, une inimitié. C'était des ennemis en fait. Ils supportaient pas l'un l'autre. Hein? Il y avait une haine entre les deux. الحجاج hein, qui est celui qui est au-dessus de l'autre le détestait tellement qu'il a voulu l'éloigner du regard du calife des musulmans à cette époque, qui était Abdul Malik ibn Marwan. Donc qu'est-ce qu'il a fait? L'envoyer où? On a dit? Il a envoyé combattre le roi, hein, Rutbi. Il a dit, va combattre, hein, Abada. Il l'a éloigné, comme ça il reste pas, hein, près de, du calife Abdul Malik ibn Marwan. Pourquoi? Parce qu'il le détestait, tout simplement. Et Cheikh, il dit, il l'envoya donc loin, au Sijistan. Et chacun des deux attendait le moment opportun. Ibn al-Ash'af ne voyait pas un jour le Hajjaj sans qu'il n'ait l'intention de le tuer tellement il le détestait. Regardez comment l'adaw entre deux personnes jusqu'à quoi elle peut amener. Hein? Parce qu'à un certain moment, certaines personnes peuvent même souhaiter l'adaw billah, quoi? Hein? Vouloir l'adaw billah, tuer la personne. Et puis Cheikh dit, فلما بدأ عبد الرحمن السير بقي في بلدة من البلدان أدركه فيها الشتاء القارس فبقوا فيها بعد أن فتحوها وأرسل إلى الحجاج أن أردنا البقاء إلى حين انقضاء الشتاء يتقوى الجنود على مواصلة السير والجهاد. فأرسل إلى الحجاج يبخه ويصفه بالجبن والخور والضعف وأنه كذا وكذا وكذا في يعني عبارات غير لائقة ولا ممدوحة. فوافق ذلك الشحناء وتابع الحجاج هذه الرسائل وهذه الكتابات إلى ابن الأشعث باللوم ووجد سبيلا للنيل منه والكلام فيه. Lorsque Abd al-Rahman il démarra son voyage vers quoi? Vers le Sijistan. Il resta dans une contrée où ils trouvèrent un hiver glacial. Il faisait très très froid. Ils y restèrent donc après l'avoir conquise et il envoya un message à l'Hajjaj pour le prévenir qu'il voulait y rester jusqu'à ce que l'hiver passe afin que les soldats se fortifient afin de continuer leur avancement et le jihad, etc. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Al-Hajjaj lui envoyait un message où il le réprimandait. Et n'oublie pas qu'Al-Hajjaj, qu'est-ce qu'il a, hein, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur l'un vers l'autre? Ils se détestent. Donc l'autre lui dit, on va se reposer ici. L'autre, qu'est-ce qu'il a trouvé ça une occasion de le, hein, de l'attaquer? Il a dit, il lui envoyait un message où il le réprimandait et le traitait de, hein, de couardie, c'est-à-dire qu'il était un peu heureux, etc. Et de faiblesse et de lourdeur et qu'il était ceci et cela, etc. C'est-à-dire, il y a des paroles qui sont pas convenables, qui sont pas louables. Pourquoi? Parce que ça la convenait à sa haine. Et le Hajjaj continua donc de lui envoyer des messages et des lettres à Ibn al-Ash'ath où il le critiquait et il trouva donc une voie pour l'injurier et le critiquer. Et vous voyez que dans cette histoire, vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. On ne pourra pas tous les... Hein, sinon on va devoir faire plus que deux cours, au moins deux ou trois jours, si on veut tirer tous les bénéfices à tirer. Vous voyez qu'il y a un bénéfice clair à quoi, hein, à peut amener quoi? La haine entre deux personnes. Et écoutez bien ce qui va se passer ici. فقال في الجند خطيبا. Ibn al-Ash'ath, il a fait un serment à ses soldats. N'oublie pas que c'est le général d'une armée. Donc il a une armée avec lui. Et il a fait quoi? Il a fait une khutba. Pourquoi? Parce que le Hajjaj, il l'a attaqué. Ça, houlala. Hein? Donc qu'est-ce qu'il va faire, Ibn al-Ash'ath? Il va faire un serment. Écoutez ce qu'il va dire dans ce serment-là à ses soldats. إن الحجاج يقول كذا وكذا فانظروا أمركم فلم يرتضي القوم كلام الحجاج وخلعوا الحجاج فإنه كان أميرا عليهم خلعوا الحجاج وبدل أن يتجه ابن الأشعث إلى رتبه لقتال وفتح البلاد فانقلب ورجع إلى الحجاج لقتال الحجاج فخرجوا جميعا لقتال الحجاج وهم في الطريق قالوا وكان يوما يخطب فيهم والد من الأشعث محمد من الأشعث واسم الابن عبد الرحمن خطب فيهم ومما قال بما أن خلعنا الحجاج فلابد أن نخلع من ولى الحجاج فخلعوا من؟ عبد الملك بن مروان وخلعوا الحجاج فتوجهوا إلى ماذا؟ إلى قتاله، ودارت بينهم معارك كثيرة شهيرة، كانت الغلبة في أكثرها لابن الأشعث، إلا أنه في آخر تلك النزلات ظفر به الحجاج ونعم وانتصر عليه. Qu'est-ce qu'il a fait l'Ibn al-Ash'ath? Quand il a entendu ces paroles-là de, hein, l'Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, il a fait le khutbah, ses sermons. Il a dit quoi? L'Hajjaj, il dit cela, il dit cela, hein. C'est-à-dire quoi? Vous êtes des peureux, vous êtes ceci, vous êtes cela, etc. Hein? Et voyez votre affaire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien évidemment, ils n'ont pas accepté ces paroles d'Al-Hajjaj. Ils se retirèrent de l'autorité d'Al-Hajjaj, car il était leur gouverneur. Ils sortirent donc de l'autorité d'Al-Hajjaj, et à la place de se diriger vers Rutbil afin de le combattre, le roi des Turcs à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait volte-face, ils ont fait demi-tour, ils ont se retourné, ils ont dit, ben, si lui il a dit ça, nous on est une armée, on est des soldats, eh bien on va se retourner contre lui maintenant. Regardez le fitna comment elle commence. Il est dit, on va au lieu de combattre Rutbil, le roi des Turcs, de faire des conquêtes, etc. Ibn al-Ash'ath se retourna et se dirigea vers l'Hajjaj afin de le combattre. Ils sortirent donc tous afin de combattre l'Hajjaj. Maintenant l'armée n'est plus envoyée par l'Hajjaj, elle se retourne contre l'Hajjaj maintenant. Et maintenant, regardez, ils ont dit, oui, ben, on se retire de l'autorité de l'Hajjaj. Le père d'Ibn al-Ash'ath qui était avec eux, qu'est-ce qu'il a dit? Et lui il s'appelait Mohammed Ibn al-Ash'ath, alors que son fils c'est Abdurrahman. Il leur a fait une khutbah, il leur a dit, eh bien, tant que nous sommes sortis de l'autorité de l'Hajjaj, alors qu'est-ce que nous devons faire? Ben, de sortir de l'autorité de celui qui est au-dessus de lui, c'est qui? Le calife des musulmans. Abd al-Malik ibn Marwan. Et donc ils sortirent donc de l'autorité d'Abd al-Malik ibn Marwan et de l'Hajjaj et s'orientèrent vers quoi? Ils s'orientèrent afin de le combattre. Et il y a entre eux des guerres. Là on parle entre musulmans hier. Et il y a eu beaucoup de morts dans ces guerres-là. Et on va le voir plus loin qu'il y a cette fitna-là, il y a même des ulama qui ont disparu dans cette fitna-là. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont, leur est arrivé. Tellement qu'il y a eu de morts, etc. Et tellement que le sang a coulé. Ils s'orientèrent afin de le combattre, il y a entre eux de nombreux célèbres combats dans la majorité desquels Ibn al-Ash'ath avait le dessus, sauf que dans les derniers combats, Al-Hajjaj le domina et le vainquit. Et Cheikh il dit, c'est à ça que, sur lequel j'ai attiré votre attention il y a quelques instants, c'est le fait qu'il y a des bénéfices à tirer de ça. Il dit, وهذه الفتنة بارك الله فيكم قد شارك فيها مع ابن الأشعث جمع من الصلحاء والصالحين وأهل العلم. لأن الحجاج بن يوسف معروف أيها الأحبة بتسلطه وجبروته وسفكه للدماء، بل كان يتحين في وقت الجمعة أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وفعل بالناس الأفاعيل حتى إنه قال قد قال له رجل يا هذا إنك قد فعلت بأمة محمد كيت وكيت، فانظروا إلى جواب هذا الرجل وهو جواب عظيم داهية، قال نعم إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم لما أحدثتم في دين الله ما أحدثتم وتركتم من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما تركتم سلطني الله عليكم هكذا يكون الأمر سلطني الله عليكم. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette épreuve qu'Allah vous bénisse? Un certain nombre de vertueux et de gens de science participèrent aux côtés d'Ibn al-Ash'ath, car Al-Hajjaj ibn Yusuf était connu pour sa domination et sa tyrannie et parce qu'il faisait couler le sang. Et si vous lisez la biographie de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, vous allez voir le mal qu'il a fait. Il dit, mais de plus, il lui est arrivé de retarder la prière du vendredi, de son heure. Et il fit aux gens des choses à tel point qu'un jour un homme lui a dit, oh toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam telle et telle chose. Qu'est-ce que lui a répondu Al-Hajjaj, qui est le gouverneur, hein? Il lui dit, regardez la réponse de cet homme, qui est une réponse mémorable et habile. Il dit, oui, il admet tout ce qu'il fait comme mal et tous les gens qui tuent, tout le volume qu'il fait, l'oppression qu'il fait, etc., hein, l'injustice qu'il fait, etc. Il dit, oui, je ne suis qu'une calamité venant d'Allah sur vous. Lorsque vous avez innové ce que vous avez innové et que vous avez délaissé de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce que vous avez délaissé, Allah m'a rendu maître de vous. C'est-à-dire quoi? Une qaïda que les ulama disent, kama takounu yuwalla alaykum. Comme vous allez être, vous allez voir les gouverneurs que vous méritez. Si vous dites ça de moi, naam, je le fais, c'est vrai. Voilà qui sait par quoi? Par, sabab de ce que vous faites. Ce que vous avez délaissé de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que vous avez innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chérie, dites-le donc l'affaire. Allah m'a rendu maître de vous. Maintenant, on va parler d'un grand imam de la communauté. Vous avez déjà sûrement entendu son nom. C'est Mohammed ibn Sirin, rahimahullah. وسمع الإمام ابن سيرين رجلا يدعو على الحجاج فقال له يا هذا كما في مصنف ابن أبي شيبة قال له يا هذا إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج فلا تظلم فعل الأفاعيل الحجاج بن يوسف الثقفي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقاتل السادات الناس ومنهم سعيد بن جبير رحمه الله ورضي الله عنه وغيره من الأئمة والصلحاء ولما استفحل أمره خرج بعض الصالحين معه وبعض العلماء مع عبد الأشعث أعني في قتال من الحجاج يغضي للمال للحجاج من يوسف تقفي لتشويم سعيد بن جبير رضي الله عنه فمدخل ظلم دي cette personne là et malgré ça ابن سيرين il attendit un homme qui faisait dua sur le حجاج pas pour lui contre lui il faisait dua contre le حجاج qu'est-ce que l'imam ابن سيرين رحمه الله il lui a dit écoutez cette réponse d'un imam de la communauté qui fait partie des premières générations de l'islam. Il a dit, Ibn Sirin, rahimahullah, quand il a entendu cette personne faire des doigts contre le Hajjaj, il lui a dit, oh toi, hein? Et ça c'est rapporté avec une chaîne transmission authentique dans mon sang neuf d'Ibn Abi Shayba. Il a dit, oh toi, Allah juge parfaitement. Il prend pour le Hajjaj de celui qui a été injuste envers lui. Et il prend de l'hajjaj pour celui qui a subi une injustice de sa part. Ne sois donc pas injuste. Et ça c'est une règle importante, ya ikhwa. Les ulama ils disent qu'on la nuqabil al-zulm bimada bi-zulm. On ne fait pas face à l'injustice. Quelqu'un, ça arrive, ça nous arrive à tous. C'est vrai ou pas? On subit tous des injustices. Hein? Ça nous arrive. Et qu'Allah nous préserve, des fois peut-être que nous aussi, hein? On est injuste envers les gens. Mais est-ce que maintenant on va être injuste parce qu'on a été injuste envers nous? Ça c'est pas une voie des gens de la sunna. C'est pas parce que quelqu'un a été injuste avec toi que toi tu deviens quoi? Injuste envers lui. Et ça c'est très important de comprendre ça. Walaykum salam. Il lui dit donc, Allah, al-Hajjaj, il était injuste, Allah, il va prendre de l'Hajjaj pour celui qui a subi cette injustice. Et le contraire est vrai aussi. Donc ne sois pas toi injuste. Et puis, Cheikh, il dit, al-Hajjaj, il fait des choses graves à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? On aurait pu préparer une biographie de tout ce qu'il a fait, etc., et citer tout ce qu'il a fait, etc. Mais sinon, comme j'ai dit, le dar serait trop long. Mais on peut citer à titre d'exemple, hein, qu'il a tué énormément de gens. Quand je dis énormément, c'est énormément de gens. Parmi eux, il a tué parmi les plus nobles des gens. Et parmi eux, Saïd ibn Jubair, radiallahu anhu arda. Et d'autres parmi les imams et les vertueux. Alaykum salam. Et puis quand l'affaire de l'Hajjaj, elle s'aggrava, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certains salihines, certains vertueux, ils sortirent avec lui et certains savants furent avec Ibn al-Ash'ath. C'est-à-dire afin de combattre qui Al-Hajjaj. C'est-à-dire qu'il y a des gens de science qui ont participé à cette fitna-là. Parce que c'était une fitna azima. Mais vous allez voir après le mouqif de un des grands imams de la communauté. Vous avez sûrement entendu des magnifiques paroles de lui. C'est qui? Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah. Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah. Vous allez voir l'ilm, comment il élève les gens et comment il fait qu'avec l'ilm, tu sais comment te comporter dans les temps de fitna. Tu sais, parce que Allah Azza wa Jalla nous a laissé tout pour la guidance. Vous ouvrez les livres de la Sunna, vous trouvez par exemple Kitab al-Fitan, min Sahih al-Bukhari par exemple. Dans le Bukhari, vous trouvez un chapitre qui s'appelle comment? Hein? Kitab al-Fitan. Il y a des ahadiths sur al-Fitan. Alaykum salam. Alaykum salam. Hein? C'est-à-dire que, il y a une sourate du Coran que les ulama appellent sourate al-Fitan. C'est laquelle? Ahsan, Zakla, Surat, Al-Ankabut. L'ulama, un des noms, parce que l'ulama, il donne différents noms à différentes sourates, d'accord? Par exemple, Surat Nahl, vous connaissez Surat Nahl, hein? Ata Amrullahi, fala tasta'ajilu ila akhir al-ayat. Eh bien, qu'est-ce que l'ulama, ils ont donné comme nom, notamment, à Surat Nahl, c'est quoi? Surat Ni'am. Pourquoi? Parce qu'Allah, Azza wa Jalla, dans cette surat-là, il parle beaucoup de quoi? De Ni'am. Hein? Donc nous on a des textes qui nous montrent comment se comporter en tant de fitna. Mais après quand il y a la fitna, il faut s'accrocher au texte. Hein, il faut s'accrocher au texte. Sinon, tu vas tomber dans le fitna. Et sans t'en rendre compte, tu risques de te faire du mal à toi-même et tu veux m'escalader au l'aïdou billah, faire couler le sang des gens. C'est pour ça que Sunni, il fait attention à ce qu'il fait et il s'attache au texte. Et c'est pas quand une fitna qui arrive qu'elle le, hein, elle le prenne. Au l'aïdou billah midalik. Et il y a des hadiths qui sont très forts sur le fitan. Et on voit au jour d'aujourd'hui, hein, toutes les fitanes qui arrivent dans le monde. Fitan azim. Maintenant, comment toi, en tant que sunni, en tant que muslim, comment tu te comportes vis-à-vis de ça? Tu me suis mal fitna? Non, tu dois savoir comment te comporter. Et d'où l'importance, parce que nous, c'est vrai qu'on a peut-être les textes, mais on ne comprend pas nécessairement ces textes. Il faut revenir à la compréhension de qui? De ulama. Allah Azza wa Jalla, dans surat Nahl, dans surat l'Anbiya, il a dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Cheikh Al-Albani Rahman, il disait une super parole. Il disait que Allah Azza wa Jalla a divisé les gens en deux catégories dans ce verset-là. Ceux qui savent et ceux qui savent pas. Ceux qui savent pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il leur a ordonné de demander à ceux qui savent. Et ceux qui savent, ils répondent. C'est pas toi que tu sais pas, toi tu viens parler au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est vrai. Et nous aussi, on doit apprendre cette éducation-là. À pas aller demander des questions sur la religion à n'importe qui. Subhanallah, comme un chéri nous a dit, il a raison. Il a dit, subhanallah, quand quelqu'un il a un problème du cœur, hein, il va voir qui? Il va voir l'infirmier du coin, chez l'infirmier. Même si j'ai un infirmier. Où est-ce qu'il va aller? Il va aller chercher le meilleur cardiologue. Hein? Et que les gens, ils ont dit du bien de lui, il va chercher, etc., il va filtrer, il va voir, hein, est-ce qu'il a, il fait bien les opérations, etc., est-ce qu'il y a cas. Mais quand c'est din, il a dit, peut-être qu'on va chez le cycliste du coin, on va chez le charcutier du coin, la haja, hein. Et tu poses des questions dans le din, là, subhanallah, l'adim. Alors que, hifd al-din, c'est plus important que hifd al-badan. Alors que la préservation de la religion, c'est plus important que la préservation du corps. Donc tu vas pas chez n'importe qui, toi, tu poses une question dans la religion. Et surtout notre époque avec Internet, avec le téléphone, avec les fax, etc. C'est facile de poser la question à des grands ulama, c'est très facile. Mais il faut savoir c'est qui le ulama, ça c'est encore une autre question. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque son affaire s'aggrava, certains vertueux sortirent avec lui et certains savants furent avec Ibn al-Ash'ath. C'est-à-dire afin de combattre qui? Al-Hajjaj. Et c'est pour cela qu'il fut dit à Ibn al-Ash'ath, écoutez cette parole. Il y a des gens, ils ont dit Ibn al-Ash'ath, إذا أردت أن يقاتل الناس معك كما قتل الصحابة حول هودج عائشة يعني يوم الجمل فأخرج معك الحسن البصري. Il y a quelqu'un qui a dit à Ibn al-Ash'ath, qui s'est rebellé contre Al-Hajjaj, il avait ses soldats, il s'est retourné, vous rappelez l'histoire, hein, il s'est retourné, hein. Et il a dit, si tu veux que les gens combattent avec toi, parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui se rebellent avec lui, pour avoir le maximum de force, et se rebeller contre le gouverneur. Il a dit, si tu veux que les gens soient avec toi, qu'est-ce que tu dois faire? Prends le Hassan al-Basri avec toi. Pourquoi? Hein? Barakallah, parce que le Hassan al-Basri, imam. Et ici maintenant, tu vois un imam de la sunnah, hein, prendre parti, etc. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas faire confiance, tu vas partir avec lui. Regardez les gens, ils ont dit, si tu veux que les gens te suivent et qu'ils soient avec toi dans ce que, hein, tu veux faire, arrange-toi pour que Hassan al-Basri soit avec toi. Parce que Hassan al-Basri, c'est un imam. Il agit en fonction de la sunna. Il se fait pas avoir. Rahmatullah Ali, vous allez voir son moqif, il est azim. Ils ont dit, si tu veux que les gens combattent avec toi, comme les compagnons ont combattu autour de la litière placée sur le dos d'un chameau de Aïcha radiallahu anha, c'est-à-dire que c'est une bataille qui était connue pour Ma'arakat al-Jamal, la bataille du chameau. Alors fais sortir avec toi Hassan al-Basri. Et écoutez ce que va dire le cheikh ici, il dit, Ma'loum ayyuha al-Ikhwa. Et je rappelle, c'est le docteur Abdullah ibn Abrahim al-Bukhari, qui enseigne à l'université de Médine. Il dit, Ma'loum ayyuha al-Ikhwa manzilat l'imam Hassan al-Basri finnas. Et comment on voit déjà ce haut statut qu'Allah a donné à Hassan al-Basri, c'est qu'aujourd'hui en 2013, on est rentré, hein, on est en 2013, on est à Cour Saint-Étienne, je dis toujours Rotini, mais c'est Cour Saint-Étienne ici, hein, Cour Saint-Étienne, et on parle de qui? De Hassan al-Basri, rahmatullah. Hein, wa rafa'na laka zikrak. Regardez, Allah azza wa jalla comment il élève les gens de la sunnah. Et les gens, hein, qui sont attachés à prendre la sunna, à répandre la sunna et à défendre la sunna. Il dit, le cheikh, وهو قدوة وأسوة إذا أردت أن يخرج الناس ويقاتلوا معك الحجاج فأخرج معك الحسن لثقة الناس comme la réponse était tout à fait juste لثقة الناس بالإمام حسن فجيء للإمام حسن واقتيد عنوة وقصرة وهو يعبى رحمه الله حتى إنه لما كان مقتادا قدف بنفسه إلى النهر ليفلت من الدخول في هذه الفتنة ونزلوا فأخرجوه رحمه الله كما في طبقات ابن سعد. Il lui dit, si tu veux que les gens se rebellent avec toi, hein? Et là, vous entendez le mot rébellion, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. C'est un mot que certains, hein, ils sortent comme s'ils buvaient de l'eau, hein, et c'est rien du tout. Attention. Fitna, le sang des gens, les biens des gens, l'air des gens. Attention. Wa iyyak, tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu as du sang illicite sur tes mains des gens. Attention, c'est des choses graves là. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, si tu veux que les gens combattent avec toi, eh bien sors le Hassan al-Basri avec toi. Pourquoi? En raison de la confiance qu'avaient les gens envers le Hassan al-Basri, rahimahullah. Et donc ils vinrent donc chez l'imam al-Hassan al-Basri, et ils lui ont proposé de faire le khourouj, hein, de se rebeller avec eux. Et qu'est-ce que le Hassan al-Basri a fait? Évidemment, il a refusé. Parce qu'il sait ce qu'il fait là. Et que ça va amener quelle fitna? Ça va rien arranger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont emmené de force. Et par contrainte, alors qu'il refusait qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah. À tel point qu'alors qu'il était emmené de vive force, hein, il était attaché à Ikhwa. Il s'est jeté dans le fleuve pour pas participer dans la fitna. Ça, c'est rapporté avec des chaînes de transmission authentique, retourné dans un livre qui s'appelle Tabaqat ibn Sa'd. Tabaqat, un savant qui s'appelle ibn Sa'd. Ils descendirent et le firent remonter du fleuve, le firent sortir de ce fleuve. Comme cela est rapporté, comme j'ai dit, dans Tabaqat ibn Sa'd. Regardez, Al-Sunna, ils sont harissés de ne pas participer à la fitna. Et le Hassan al-Basri, il sait, comme un, il a dit très justement ici, c'est quoi? C'est que si, en plus, non seulement si lui, il sort, il va participer à la fitna, mais il va être sabab de tous les gens qui le suivent, parce qu'ils lui font confiance. Vous imaginez la responsabilité? Et c'est pour ça qu'on revient dans les temps des fitaines. Ar-rasikhina fil 'ilm. Et les versets du Coran qui sont clairs sur le fait de hein? Wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi ada'u bihi ila akhir al-aya. Faut revenir aux gens de science, aux grands enracinés dans la science. On ça nous a déjà arrivé de poser des questions à des machères. Ils ont dit, akhi, moi je te réponds pas là-dessus. Ça c'est des questions de fitaines, demande aux grands. On nous est déjà arrivé. Ils ont dit, moi je te réponds pas là-dessus. Moi je prends pas la responsabilité. Ah, mais là, peut-être quelqu'un va nous poser une question, hein? Hadith wala haraj. Attention de ne pas parler sur Allah sans science. C'est grave. Et donc, Cheikh, il va parler d'une nuit ici, qui a un nom dans l'histoire de l'islam. Li ashahid hadhihi al-fitna al-amya allati dhahabat fiha anfus wa qulat fiha umam. Il n'a pas dit une personne, umam qutilat fiha. وفقد آخر تلك الليالي ليلة تسمى ليلة دجيل فقد فيها كثير من الخلق ولذلك تجد في تراجم بعد الأئمة يقال فقد أو فقد ليلة دجيل فقد لا يدرى عنه مات وهو في تلك السنة أم مات بعدها لا يدرى ومن هؤلاء أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبيه ورحمه الله وغيره من العلماء. Écoutez ça, ya ikhwa. Regardez le fitna, quoi, ça, même. Amen. Cette épreuve aveugle, cette fitna aveugle, au cours de laquelle des gens furent tués, et des communautés entières furent tuées. C'est-à-dire, si vous retournez dans les livres d'histoire, vous allez voir les descriptions qui sont données du sang qui coulait, des gens. Et lors de la dernière de cette nuit, qui est appelée la nuit de Dujail, beaucoup de gens disparurent. Cette nuit, elle est dans l'histoire de l'islam. Problème, c'est que nous, on n'étudie pas notre tarikh. Hein? On sait quand Bonaparte il était à Waterloo et kada kada, walakin on ne sait pas notre histoire. Et c'est ça pourquoi? Parce que dans l'histoire il y a des ibar, il y a des leçons à tirer, des morales à tirer. Il y a une nuit qui s'appelle la nuit de Dujail. Et c'est pour cela que tu trouves dans la biographie, pourquoi tu lis les biographies, par exemple, il y a un livre très connu dans les biographies des savants que dit l'imam Dahabi qui s'appelle quoi ? Siyar A'lam An-Nubala. C'est une biographie des illustres personnes, même si dedans il y a des gens qui ne sont pas illustres, à la Kulihal, des gens qui sont connus, hein, et qui il fait une biographie de chacun. Et il y a une biographie de Hassan al-Basri, il y a une biographie de Mohamed ibn Sirin, il y a une biographie de Talq ibn Habib, etc., etc. Et il y a une nuit qui s'appelle la nuit de Dujail. Et bien dans certaines biographies des savants, on voit qu'on voyait que par exemple les ulama ont dit il est né en telle année, il est mort en telle année, il est né en telle année. Bien certains ulama, on voit il est né en telle année, perdu la nuit de Dujail. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Tellement que la fitna était grande dans cette nuit-là. Tellement que le qatl, il était grand. Hein? Les gens s'entretuaient, etc. C'est que certains imams de l'islam, on ne sait même pas ce qui leur est arrivé. On ne sait même pas s'ils sont morts cette nuit-là ou s'ils sont morts plus tard. Allahu a'lam. Fuqida laylat ad-dujail. On l'a perdu, hein? Perdu la nuit de Dujail. Parmi ceux-là, écoutez ce nom-là, regardez, El Fitna quoi ça amène, qui est, qu'on n'a plus de nouvelles de lui depuis cette nuit-là de Laylat ad-Dujail, c'est qui? Abu Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud. C'est qui Abdullah ibn Mas'ud? Si vous connaissez pas Abdullah ibn Mas'ud, je lève mes mains, hein? Je me rends. Abdullah ibn Mas'ud, c'est qui? C'est parmi les Sahaba. Il faut apprendre le nom de Sahaba. Un jour, un enfant de ma famille, hein, je ne vais pas être précis pour ne pas dire qui c'est, mais un enfant de ma famille, il était en train de me citer des joueurs de football et kada kada. Je lui dis, dis-moi, c'est qui Abu Bakr? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quoi, c'est un joueur? Regardez, il faut qu'on... Parce que la tarbiya, elle n'est pas là, c'est ça la vérité. C'est qui? C'est un joueur? Dans quelle équipe il joue? Il m'a dit. Et venez, après je lui ai expliqué, kada, je lui ai fait dans ses rêves, c'est quelqu'un de l'année de la famille, etc. Mais regardez la situation dans laquelle on est, ya ikhwa. Abu Bakr Siddiq, le meilleur de cette communauté après qui? Après le prophète alayhi salam, et certains de nos enfants ils ne connaissent pas. Moussiba. Et il connaît tous les joueurs de... Je ne vais pas citer les équipes, mais... Hein, surtout que je ne suis pas un spécialiste, je risque de me tromper, walakin, hein. Ils connaissent tous les joueurs, ils connaissent combien de buts ils ont marqué, Kada en 86, je ne sais pas où, Kada, il a marqué autant, Kada, telle minute, et Kada, etc. Tarbiya. Ça, les ulama, quand ils parlent de tarbiya, ils citent souvent un verset du Coran, de surat Tahrim. Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum, wa ahlikum nara. Sauve-toi toi-même de l'enfer et sauve tes proches, sauve ta famille, va pas loin, va pas trop loin, khi. Où tu vas, khi, 40 jours, la 60 jours, la 80 jours, arza. Hein? Ta famille d'abord. Et à la base, c'est l'ilm. Et nous, on doit apprendre à nous éduquer nous-mêmes. Et à éduquer nos enfants, leur apprendre hub de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Moi, je ne vais pas vous le faire, mais pour vous poser la question, hein, moi, j'aime pas trop mettre les gens mal à l'aise dans mes cours, mais je vous laisse la réponse à vous. Posez-vous la question à vous-même. Quelle année le prophète Hassim, il est mort? Il est né. Quelle année il est mort? C'était quelle année que l'Israël était? Les noms de ses épouses, les noms de ses enfants, sa description physique. Nous, on dit on l'aime, alayhi salatu salam, hein? Nuhibbuhu, alayhi salatu salam, wa hubbuhu wajib. Comment est-ce qu'il était, alayhi salatu salam, physiquement? Comment est-ce qu'il était dans son comportement? Quels sont les événements qui sont arrivés dans sa vie? C'était qui les meilleurs des gens qui étaient à côté de lui, qui étaient, hein, le sahaba? C'était qui? C'est qui Abu Bakr Siddiq? Comment est-ce qu'il était? C'était qui Omar ibn al-Khattab? C'était qui Usman? C'était qui Ali? C'était qui, hein? Abdullah ibn Abbas? C'était qui? Abu Huraira? Pourquoi on l'appelle Abu Huraira? C'est quoi son vrai nom? Certains ulama ont dit c'est Abdurrahman ibn Sakhr. Il y a beaucoup d'avis sur son nom. Abu Huraira, c'est une kunya. Pourquoi on l'appelle Abu Huraira? Qui c'est? Ah, ça c'est connu, alhamdoulilah. Hein? Parce qu'il avait un hirra. Hirra. Abu Huraira, Huraira c'est un tesghir. En arabe, de hirra. Un petit chat, hein? D'accord? À la koulihal, c'est ça. Il faut qu'on éduque nos enfants là-dessus. Faut qu'on éduque nos enfants là-dessus. On éduque nous-mêmes, on éduque nos femmes, on éduque, hein? Nos enfants, etc. Et on éduque nos proches à cela. Donc j'ai dit que qui est disparu cette nuit-là, c'est Abu Ubaida, le fils d'Abdullah ibn Mas'ud. Ben Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah agrée son père et qu'Allah lui fasse miséricorde, et d'autres parmi les savants. Dites-moi pour l'Aïcha, parce que je ne sais pas quelle heure c'est ici. Baqishouya, chal, mashkat adno. Yagrat adn, anaran habis, yak. 53. L'adan. Inch'Allah. Barakallahu fik. Cheikh, il dit, Shahid, hadil fitna. Cette épreuve, est-ce qu'il y a comme trouble dans les combats et connu la confusion entre le vrai et le faux? C'est parce que dans les temps des fitnes, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez d'où vient le mot fitna? Peut-être que les frères qui ont l'habitude d'écouter mes cours, ils le savent. L'imam Shinqiti, rahimahullah, qui est un savant mauritanien qui vit en Arabie Saoudite, qui enseignait à la Masjid Nabawi, rahmatullah alayh, qui était spécialisé du tafsir Qur'an, il a fait un tafsir qui s'appelle Adwa al-Bayan, fi tafsir Qur'an bil Qur'an, qui est le plus haut degré dans le tafsir, c'est d'expliquer le Qur'an par le Coran. Et il s'appelle Adwa al-Bayan. D'ailleurs, il a rapporté, comme nous a dit notre cheikh Falah, qui faisait partie de ses étudiants, il a dit, min ihtiram le Qur'an, tellement qu'il respecte le Qur'an, il faisait le tafsir debout. Il ne s'asseyait pas. Rahmatullah alayh. Ça, c'est pas, il restait debout, Masjid Nabawi. Hein? L'imam Shinqiti, rahimahullah, dans son tafsir, je pense que si je me souviens, c'est tafsir l'Ankabout, mais vérifiez, inshallah. Il a dit que le fitna, ça vient dans la langue arabe. Dans le ma'na al-lughawi, c'est quoi? C'est le fait de mettre de l'or dans du feu. Et peut-être que les papas, ils connaissent un peu ce procédé-là. Hein, nous, on n'a pas trop l'habitude de l'or, etc. Peut-être que les frères sont mariés, hein. Ils vont juste à la bijouterie, ils ne savent pas comment, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pour purifier, pour voir l'or du pur de l'impur, ils font un procédé avec la chaleur, hein, avec le feu. Et bien il a dit le mot fitna, ça vient de ça, c'est le fait de mettre de l'or dans du feu pour que le pur se dissocie de l'impur. Donc dans le fitna, qu'est-ce qui se passe? Tu vois les gens de la vérité, ils se dissocient des gens du faux. Vous comprenez ça? C'est dans le fitna que tu vois. Il est là, na'am, na'am avec toi, kada, kada. Et après, quand il y a le fitna, là, c'est là que tu vois les gens. C'est là que tu vois qui est vraiment, qui ne l'est pas. Il a dit, le cheikh, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit, c'est bon pour le son, ce qui parle. Wa la talbisu al-haqqa bil-batili, wa taktumu al-haqqa wa antum, ta'lamun. Il a dit, le cheikh, dans les troubles et dans les combats, hein, dans les combats, le trouble est connu et le faux se mélange au vrai. Il y a une confusion. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, selon la traduction du sens est, et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, qui est un savant contemporain, qui a enseigné à Masjid Al-Haram notamment, hein, et qui est un des parmi les plus grands savants de notre époque, rahmatullah alayh, hein, et parmi les gens qui sont connus pour leur piété, rahimahullah, à tel point qu'il rapportait que quand la maladie de sa mort, il enseignait Al-Haram Al-Makki sur un lit avec un masque d'oxygène. Hein? Et qu'il le retirait quand il devait parler, qu'il le remettait, etc. Il y avait de taqwa. Ça, nos exemples à suivre. C'est ça, les imams de la communauté. Il a rapporté qu'il était dans le coma, rahmatullah alayh, parce qu'il avait un cancer, rahmatullah alayh, hein. Il était dans le coma, il faisait un dars. Il était dans le coma, hein. Vous savez que les gens dans le coma, ils délirent, etc., ils disent des choses, etc. Lui, son délire, c'était l'ilm. Et il faisait comme s'il parlait à quelqu'un, il disait, Fahim, t'as compris ou pas? Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayh, il disait toujours, rahimahullah, il y a l'ilaj contre shahawat, c'est quoi? Les passions, les désirs, c'est quoi l'ilaj? C'est quoi qui te préserve? C'est le taqwa. Et contre les shubuhat, les ambiguïtés, toi pour savoir ce qui est vrai du faux, t'entends un discours, t'entends un slogan, t'entends quelqu'un qui t'appelle quelque chose, t'entends une règle qu'on te dit ou là un point qu'on te dit de la religion, comment tu vas savoir toi si c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ça fait partie de la haqq ou ça fait partie des choses ambiguës, hein, et qui sont fausses? C'est quoi, c'est? L'ilm. C'est l'ilm. C'est avec l'ilm que tu sais. L'ilm, nafi, l'ilm bénéfique, l'ilm sahih. Et on a expliqué c'est quoi l'ilm. Qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba. Et maintenant, on arrive à la définition de la taqwa. On n'a pas oublié le sujet du cours, ne vous inquiétez pas, hein. Maintenant, on va arriver à qui? Une personne qui a dit une définition de la taqwa, comment elle s'appelle? Talq. Ibn Habib, rahimahullah. إذن ممن خرج مع ابن الأشعث في ذلك الوقت؟ سان إمام كي سابل عامر بن شراحيل الشعبي. الإمام الشعبي إذا بتتجاوز تنضي دون الحديث الإمام الشعبي الشهير، ولكنه تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا واستغفر. فهؤلاء القوم il a rapporté que certains imams dans cette fitna là, après quand ils ont vu dans la fitna dans laquelle ils sont tombés, etc., ils ont tellement pleuré jusqu'à la fin de leur vie, hein, que leur barbe est devenue blanche. Certains, ils ont même pas pris part, hein, mais juste parce qu'ils ont eu un mawqif. Il a dit quoi? L'imam Amir ibn Sharahil al-Sha'bi. Le nom que tout le monde connaît, c'est al-Sha'bi. Le célèbre imam al-Sha'bi, il a participé à cela. Mais il s'est repenti et revint, se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et il demanda pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Parce que c'est ça, le musulman, il peut tomber dans l'erreur. Il faut essayer d'éviter de tomber dans l'erreur. Mais quand il tombe dans l'erreur, tu restes dans l'erreur. Là, tu reviens. وَالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقْ فَضِيلَةً. Ça, c'est important. احفظوا هذه الكلمة. وَالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقْ فَضِيلَةً. Le fait de revenir vers la vérité, c'est une pression. Soit iya, que tu te fasses avoir par shaitan, et que tu te fasses croire que le fait que tu acceptes le haq et que tu reviennes, que quoi? Que ça va te diminuer. Là, au contraire. Au contraire, parce que le haq, il va faire que t'élever. Wa alaykoum salam. Et on voit ça dans la sirah de nos ulama. Même certains ulama qui ont fait une fatwa, etc. Alors qu'ils ont dit, subhanallah, moi j'ai dit ça. Je dis, ataraja, je reviens là-dessus. Cheikh Al-Albani, il est connu qu'il y a un livre qui s'appelle Atarajuat. C'est un savant du hadith. Et il disait sur une parole, il disait, l'ilm la yaqbalu al-jumud. L'ilm, c'est pas quelque chose de rigide. Ça y est, je reste dessus. Non, des fois, il disait qu'un hadith était daif. Et puis, au cours de sa recherche, il trouve une chaîne de transmission qui le fortifie. Et donc, il change. Est-ce qu'il veut dire, non, j'ai écrit dans les livres, hein? Les gens maintenant, ils vont voir que j'ai dit que c'est daif. Hein? Les gens, ils vont me dire pourquoi il a changé. Là, le haq, c'est le haq. Au contraire, ça prouve que ce alim-là, il suit quoi? Il suit le haq, en fonction des informations qu'il a. Et c'est un ijtihad de sa part, il a dit que c'est daif, en fonction de ce qu'il avait, puis il a trouvé une autre chaîne de transmission, hein? Il a vu que ça se fortifiait. Donc nous, on doit suivre cet exemple-là. On peut faire des erreurs, et on fait tous des erreurs. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs ou des gens qui tombent dans l'erreur, mais les meilleurs d'entre eux, les meilleurs de ceux qui tombent dans l'erreur sont ceux qui se repentent. Tu restes dans l'erreur, خلاص. والعذ بالله من ذلك. Pourquoi? Par kibr, tu veux pas que c'était le haq, ou tu veux pas que les gens sachent que tu es revenu vers le haq. Là. Parce que tout ce que tu cherches à la fin du compte, c'est quoi? Hein, c'est qu'Allah soit satisfait de toi, pas les gens. Pas les gens. Et l'ulama, ils disent une parole qui est très importante. Irda an-nas ghayatun lam tudrak. Toi qui cherches à satisfaire les gens, sache que tu n'y arriveras jamais. Ils ne seront jamais contents, toi, les gens. C'est une réalité. Donc, Cheikh, il dit, donc ces gens parmi les vertueux et les savants se rebellèrent, la masse des gens fut troublée. Imaginez-vous le fitna qu'il y a dû avoir à l'époque. Doit-on se rebeller avec Ibn al-Ash'ath? Ou doit-on patienter quant à la tyrannie de l'Hajjaj? Mada naf'al? Hal nata'amal ma'ahu bima dallat 'alayhi an-nusus? Hein? Min as-sabr 'ala jawr al-a'imma am la? Mada naf'al? Doit-on nous comporter envers lui en fonction de ce qu'indiquent les textes quant à la patience sur la tyrannie des gouverneurs ou pas? Que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et le prophète Azmi a dit que dans Sahih Muslim. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète Azmi. Sinon, si tu veux pas accepter, c'est ton problème. Le prophète Azmi a dit, وَإِنْ ضَرَبَ ظَهَرَكْ وَأَخَذَ مَالَكْ. اسْمَعْ وَأَطِعْ. Écoute, et oublie, même s'il tape ton dos, il prend ton argent. Sabre. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est un hadith nabawi, ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète, ça, c'est une voix prophétique. Il faut lire un peu les livres des ulama, et surtout les ulama les anciens. Lisez les livres de l'imam Malik, lisez les livres de l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i et d'autres. Hein? Al-Barbahari, Al-Sabouni dans sa aqidat Ahl-Sunnah, Ashab al-Hadith, Aqidat Salaf, Ashab al-Hadith, etc. Vous allez voir que c'est un point, il n'y a pas de divergence entre les ulama. C'est un point qui fait partie des fondements de l'islam. Il dit, للشيخ. المهم في هذا المقام أذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة لما قيل له إنه قد بويع علي يزيد ماذا قال؟ قال إن كان خيرا شكرنا وإن كان شرا صبرنا. هذا هو التعامل الشرعي مع الولاة الذين فيهم جور وظلم وحيف. Encore une fois, je dis qui nous suit qui? As-sahaba, prophète sallallahu alayhi wa sallam, hajjat al-wada', qui était très proche de sa mort, le pèlerinage d'adieu. Il a fait un serment, comment il décrit le hadith? Eh ouais, les quoi? C'est le Huffad Arba'in Nawawiya. Qu'est-ce qu'il sait? Que quoi que? Wajat minha al-qulub, wadarafat minha al-huyun, mu'idatan, Le prophète, il a fait une khutba qui a fait que les larmes ont coulé des yeux des gens. Et que, c'est le hadith de qui a rapporté ce hadith? Ahsan, les Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu arda. Et il a dit que les cœurs ont tremblé et les larmes ont coulé. Et il a dit quoi? Innahu man ya'ish minkum, fa sayara ikhtilafan kathira. وصدق عليه الصلاة والسلام والصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. Il a dit celui qui va vivre parmi vous, il va avoir beaucoup de divergences, beaucoup de divergences. C'est vrai, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il nous a montré le mal, il nous a montré le remède. Il nous a montré exactement c'était quoi le mal. Mais après, il nous a laissé comme cela. Hacha. Il a dit quoi? فَعَلَيْكُمْ لَا دُنِي الْغَمَدِ. Il t'a montré le mal, il t'a donné le remède dans le même hadith. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Et puis c'est pas tu. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. C'est quoi le nawajiz? Le molaire. Quand tu t'accroches que ça avec le molaire, tu lâches ou tu lâches pas? Tu lâches pas. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ jusqu'à la fin du hadith. Le hadith nabawi est clair. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dans Mustadrak al-Hakim, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait dans le sol, et il a tracé des petits traits à droite et à gauche qui partent du grand trait. Et il a cité ce verset, il a dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Un ordre d'Allah. Voilà mon chemin dans toute sa rectitude, droit. Suivez-le donc, c'est un ordre d'Allah. Et puis il y a un interdit. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Et ne suivez pas les petits sentiers qui sortent de la grande voie. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Qui vont vous prendre loin de ce chemin-là. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à l'attaque de chaque, à la tête de chaque petit sentier, il y a un shaitan, yad'u ilayh. Man ajabahum qadafu fiha. Il y a des chiens, et même certains de ceux-là, ils se revendiquent de sunnah. Même il peut avoir une barbe jusqu'ici. Il te dit ta'ala, ta'ala. Attention, il ne faut pas avoir. Surtout comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, les slogans. Tawhid, sunnah, sharia, etc. Mais toi, chérie, elle est là, et tout ce que tu fais, c'est là. Kif. Et Aslan, t'as jamais dit chérie, Aslan. Et je peux vous le prouver. Dans certaines de leurs vidéos, ils disent eux-mêmes des paroles de mécréance. Certains d'entre eux. Et après, ils disent, kafir, kafir, kafir. Et où est-ce que tu as dit kafir? Tu as dit kafir? Gharnas li, faire attention de ce genre de manahij, le munharifa. Les guides autoproclamés. Ils sortent de l'ombre. Je fais un groupe. Et Allah, la ilaha illallah, l'iman billah, le kufr al-taghut, naam, l'iman billah, le kufr al-taghut, naam. Mais c'est quoi ça? C'est comment l'ulama l'a expliqué? C'est ce que toi que t'es en train de faire. Et puis quand tu dis le kufr, tu dis pas de content, aller au pôle nord. C'est ça le hadith nabawi? C'est ça? C'est ça le sharia? C'est pas ça le sharia. Ou tu nous le prouves, et nous on sait que c'est pas ça de toute façon, ou t'es un kidab. Il n'y a pas 36 solutions. Le prophète, il ne s'est jamais comporté comme ça, avec le mushrikin. Mais surtout quand il vivait, parmi eux, à l'époque mécoise. Subhanallah adim. Vous n'êtes pas content d'aller au pôle Nord. C'est une da'wa ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Jadilhum billati hiya ahsan. Et débat avec eux de la meilleure des manières. C'est ça la meilleure manière? Tu n'es pas content d'aller au pôle Nord? Il faut savoir ces gens. Le même groupe, ils sont en Angleterre, à Londres. Et ils apparaissent à la télévision. Et ils font la honte aux musulmans, ils donnent mauvaise image aux musulmans. Ils prennent une image, ils disent voilà, ça c'est le palais de la reine, on va faire une mosquée là, on va l'enlever, on va faire kada. Hein? Subhanallah l'adim. Est-ce que ça c'est un uslub shara'i dans le da'wa? Des paroles plus graves encore. Et je vous le prouve, ya ikhwa. Il y a un des frères avec qui je travaille, il a écrit tout un livre sur eux. Et il a mis tous les sites internet où ils disent les paroles, toutes les photos, etc., etc., etc. Ils ont même dit, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, il y a des attentats à Londres. Vous vous souvenez ça ou pas? Dans le métro. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le métro, etc. Vous savez ce qu'ils ont dit, ces gens-là? Ils ont dit, comment est-ce que je pourrais condamner quelque chose, hein, dont le peuple britannique a été victime, alors que lui-même, il méritait cela. Donc ça veut dire que la femme le matin qui va emmener ses enfants à l'école, il y avait des musulmans dedans. Hein? Le musulman, le non-musulman, la femme, hein, qui vont marcher, qui vont travailler, le monsieur qui va travailler le matin, il va à l'usine, etc. Kada, kada, et ils ont mérité ça. C'est ça sharia? Ah, si quelqu'un est le sharia qui se lève maintenant, qui me le prouve, il n'y a pas de problème. Moi ce que je sais, c'est pas sharia ça. Donc vous ne faites pas avoir. Je dis, ouais, mais pourquoi tu parles tout le temps de ça? Ben, je parle tout le temps de ça parce qu'il faut parler tout le temps de ça. Et tant qu'ils seront actifs, on va parler, inshallah. Hein? Alhamdulillah, on n'a pas peur. Wallah, alhamdulillah, la khafu fillah, l'homme atala, ils m'ont dit le haq. L'adina dit l'Allah azza wa jil bihi. Difa'ni le haq. Le prophète, il ne s'est pas tué sur le khawarij. Il a parlé sur le khawarij, il a décrit, il a dit que c'est le kilab ahli nar, etc. Hein? Yamruqoun mina sahmi, comme yamruqoun mina din, comme yamruqoun sahmi mina ramiya. Etc., etc. Il les a cités. Regardez en Sunan ibn Majah, par exemple, les hadiths sur le khawarij, etc. Les sahaba, ils ont dit que le prophète Azim, il a tellement mis en garde contre le Dajjal, que les sahaba, ils ont dit qu'on en a donné annahu fi ta'ifatin nakhl. On croyait qu'il était à Médine avec nous. Est-ce que le Dajjal, il est arrivé jusqu'aujourd'hui, en 2013? Est-ce qu'il est sorti? Oh, s'il est sorti, t'as un problème dans ta aqida, mon frère. Je sais pas où t'as appris ça. Hein? Il est pas sorti. Le prophète Azim, il a tellement mis en garde, alors qu'il est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours pas sorti. Alors nous, on va se taire. Là, on s'était pas en bille al-haq. Et surtout que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, alhamdoulilah, aujourd'hui, hein, dans la mosquée, etc., parce qu'ils sont encore plus faciles à être pris dans ce genre de discours-là, etc. Alaykoum salam. Donc faites attention, faites attention. Et les ulama, ils disent une règle, ils disent « Na nufarriqu bain al-ta'sil wa al-tahdir, kama la nufarriqu bain al-isbat wa al-nafi. » Dans la ilaha illallah, t'as un isbat ou un nafi. On avait expliqué ça dans le hadith de Jibril, dans cette mosquée. Donc je vais pas le refaire. C'est un cours de 2h40. Vous avez patienté avec nous ce jour-là. Alhamdulillah. On va pas le refaire aujourd'hui. Hein? Eh ben, la même chose. On apprend aux gens la religion, mais on met en garde sur le batil. On apprend aux gens le haq, mais on met en garde sur le batil. T'apprends aux gens la sunna, tu m'en gardes sur la bid'a. T'apprends aux gens le tawhid, tu m'en gardes sur le shirk. Tu montres les gens de la vérité, tu m'en gardes sur les gens de l'égarement. Et ça fait partie des nasiha. Et de l'amour bil ma'rouf, ou n'ayez un munkar. Hein, vous faites pas avoir. Et ça, je vous dis toujours, encore une fois, je réitère mon conseil, apprenez la langue arabe. Apprenez la langue arabe. Et pas avec ce genre de personnes-là, de toute façon, lui-même, il a besoin d'apprendre à la base. Walakin, ne prenez pas de n'importe qui, mais apprenez la langue arabe. Pourquoi? Parce que la langue arabe, c'est le miftah. Mais j'y suis allé que de ba'lik. Dis, attends, tu dis ça, je vois Charles Etienne, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il dit le contraire, salam alaikum. Hein? Voilà, toi, si tu comprends pas l'arabe, lui, t'amène sa propre traduction, il amène sa propre, et toi, tu sais même pas les vérifier, comment tu vas faire? Hein? Toi, tu dis ça, t'es sûr? Ben, hein? Salam alaikum, bien cher, hein? Tu téléphones à un savant, hein? Bien cher, voilà, il y a quelqu'un qui dit ça chez nous, c'est faux, alhamdulillah. Allez, vous faites pas avoir. L'arabe, c'est la miftah de l'ilm. Miftah, l'ilm. Tu peux, l'ulama dit, tu peux pas entrer dans une maison si t'as pas la clé. Comme ça, là. Tu dois apprendre la langue arabe. Et la langue arabe, elle fait partie des sciences de la religion. Comme le Omar ibn Khattab, il a dit, alaykum bil arabiya fa innaha min dinikum. Apprenez obligatoirement la langue arabe parce qu'elle fait partie de votre religion. C'est Omar ibn Khattab qui l'a dit, le Farouk, radiallahu anhu arda. Il a dit, donc apprenez, mais n'apprenez pas de n'importe qui. Parce que, par expérience, moi je suis prof d'arabe,
par l'expérience, alhamdoulilah, quand je donne le cours d'arabe, etc., on apprend genre la sunna, alhamdoulilah. Walakin, je sais que quelqu'un peut facilement mettre quoi? Ses idéologies quand il vous apprend l'arabe. Parce que toi, en plus, tu respectes ton professeur et tu l'aimes et tu lui fais confiance. Donc lui, il est plus à même encore de te mettre ce qu'il veut te mettre comme choubouat et ambiguïté, etc. Et je vous rappelle encore la parole du Mohammed ibn Sirin, l'imam qu'on a cité aujourd'hui. Inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, faites attention de qui donc vous prenez votre religion. C'est pas le premier qui arrive, allez, tu pars avec lui. Là, regarde qui il est. Regarde qui il est. Regarde. Comme les salafs, ils ont dit, la madharat al-fitna, qul lin-nas, sammou lana rijalakum. Quand la fitna est apparue, on a dit, attends, tu m'apportes un hadith, c'est dans ta chaîne de narration, je vais aller voir, hein. Je vérifie. Et c'est pour ça que les grands imams de la communauté comme Abdul Mubarak et d'autres, ils ont dit, là où la sanad, la qala man sha'a ma sha'a. Ce n'est pas la chaîne de transmission, chacun il dirait ce qu'il veut. T'as dit, Adafouad Bilqasim, attends, toi tu dis quelque chose, c'est qui toi derrière toi? T'as écrit une lettre à Al-Maqdisi. Al-Maqdisi, c'est parti, le Rous al-Khawarij qui est en prison d'ailleurs. Mohamed al-Maqdisi. Vous trouvez sur internet une lettre que lui-même il écrit al-Maqdisi, où il dit que lui, c'est lui la victime en Belgique. Il dit, on va dans les mosquées, les gens ne nous acceptent pas, hein, ils nous jettent dehors, etc. Et quand on appelle al-Haq. Regardez comment, ils ont fait quoi? Ils ont tourné la vérité. C'est nous les injustes, hein, les gens qui ne veulent pas dans les mosquées, etc. Qu'est-ce qu'ils font? C'est nous les injustes et c'est eux les victimes. Alors que c'est eux qui viennent faire fondre dans les mosquées, et que les gens, ils essaient de les empêcher de faire cela. Regardez qui est derrière. Hein, et j'ai écrit sur internet, pour les frères qui connaissent le site, ils pourront le donner aux gens, j'ai écrit un article sur eux. Et j'ai montré avec preuve, etc., qui sont ces gens-là, etc., et d'où ils viennent, et leur groupe, etc., leur méthodologie, leur idéologie, etc. Hein? Donc on revient au cours. Cheikh, il donne un exemple. Pourquoi j'ai rapporté tout ça tout à l'heure par rapport aux sahaba, les ikhtilaf, hein, etc., le remède, etc. Parce que le prophète, sallam, il a dit quoi dans le hadith, Ibn Sariya, qu'il est obligatoire, c'est une preuve de suivre sahaba. Comme on l'apprend, alaykum bis sunnati, wa sunnati, al khulafa al rashidin al mahdina min ba'di. Mais écoutez la langue arabe. Après, il a dit, tamassaku biha wa addu alayha. Al damir ya'udu ila mada. Il a dit alayha, une. Alors en arabe, si on avait dit deux, on aurait dit comment? Alayhi ma. Mais il n'a pas dit alayhi ma. Il a dit ma sunna et la sunna des quatre califes, bien guidés. Et puis il a dit attachez-vous, zi. En français, on ne voit pas la différence, c'est vrai ou pas? Hein? Mais en arabe, il y a une différence. Parce qu'il a dit attachez-vous à une. À la chose unique, une. Alayha. À celle-là. À cette sunna. Les ulama, ils ont pris de ça. Qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré que la sunna des quatre califes, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, un sahabi, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai rapporté tout ça juste pour dire ça. Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux. Abdullah ibn Omar, c'est un grand compagnon parmi les ulama des sahaba, parmi les kibar sahaba, et parmi les ulama des sahaba, qui est le fils d'un des quatre califes, Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux. Il est rapporté dans Moussanaf ibn Abi Shayba, qui est un livre dans le hadith, qu'il fut dit, et des athar, etc., l'allégeance a été faite à Yazid. Que dit-il? Il dit, s'il est un bien, nous remercierons, et s'il est un mal, nous patienterons. Là, ici, le mawqif de sahaba, il est clair. Et Cheikh dit, voilà la manière légiférée de se comporter avec hein, les gouverneurs qui ont de l'injustice et de l'oppression, de la tyrannie. Maintenant, enfin, on arrive à la définition petit à petit de taqwa. Hein? Je veux que tu regardes l'heure. C'est bon, maintenant. Hein? Donne-nous un mot. Mais après, c'est bon, maintenant, ça fait. Hein? Et la jeunesse, alhamdoulilah, hein? Non? Non? اسمح لي عمي ما كاين سؤالات اسمح لي انا لست اهلا لذلك امين بارك الله فيك اسمحوا لينا بزاف يعني المهم جاءت الناس الى رجل يسمى طلق بن حبيب انا دي سونو طلق بن حبيب وهذا الأثر الذي سأذكره قد أخرجه الإمام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد، وهناد ابن سري السري في الزهد أيضا، وابن أبي شيبة رحمه الله ورحمهم الله جميعا في المصنف وفي كتاب الإيمان له، وكذا أبو نعيم في الحيلة بسند صحيح، أنه لما وقعت فتنة ابن الأشعث، هكذا اللفظ فيها، لما وقعت فتنة ابن الأشعث جاءه الناس وقالوا لطلق ماذا نفعل، يقول فكان يقول لهم أطفئوها بالتقوى، ادفعوها بالتقوى، وفي لفظ في رواية أطفئوها، وفي رواية ادفعوها، وهكذا الفتن تحتاج إلى دفع وإطفاء، لأنها إذا تطفأ إذا لم تطفأ زادت واشتعلت ومشت في الناس، فلا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. شيخ الدي les gens ils allaient voir un homme qui s'appelle comment طلق ابن حبيب. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau là, parce qu'il fait comme très chaud chez vous ici, subhanallah. Ou là c'est peut-être moi parce que je parle là. C'est trop nid, je suis là. Donc on a dit quoi? Un homme qui s'appelle Talq ibn Habib. Et ce atar que je vais citer, dit le cheikh, il est rapporté par l'imam Abdullah ibn al-Mubarak dans le Kitab Zod. Mais on se dit, pourquoi tu rapportes toutes ces références? Inch'Allah, barak Allah fik. Viens, ta'al, viens. Barak Allah alik. Ça va? Tu vas bien? Barak Allah. Il y a des sunan à faire avec les enfants, ya ikhwa. Il y a des chaînes de transmission authentique, comment se comporter avec les enfants? Donc, le cheikh, il fait exprès de citer les références pour montrer que c'est Athar, il est authentique, et vous pouvez voir qu'il est avec des chaînes de transmission authentiques. Et il est rapporté par Abdullah ibn Mubarak dans le Kitab Zuhd. Et Hanad ibn Sari dans Zuhd. Ibn Abi Shayba dans son Musannaf. Et dans son Kitab l'Iman. Et aussi Abu Nu'aym dans le Hilya. Pour les frères qui voudraient avoir les notes, je l'ai déjà tapé sur ordinateur, ils pourront l'avoir, Inch'Allah. Mais ça ne vous empêche pas de noter déjà. Abu Nu'aym dans le Hilya avec une chaîne de transmission authentique. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Que lorsque l'épreuve, la fitna d'Ibn al-Ash'as, elle est arrivée. Hein, c'est comme ça que l'Athar il est. Quand la fitna d'Ibn al-Ash'as, elle est arrivée. Les gens, ils ont été voir un homme qui s'appelle Talq ibn Habib. Pour lui demander quoi? On a dit que les gens dans la fitna, ils doivent revenir à qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été lui demander comment est-ce qu'on doit faire? La fitna maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit, éteignez-la avec la piété. Ou repoussez-la avec la piété. Et il répétait ça. Hein? Éteignez-la, repoussez-la avec la piété, etc. Et Cheikh, il dit, et telle est l'affaire des fitanes. Elles requièrent d'être éteintes et repoussées, car si elles ne sont pas éteintes, elles vont s'embraser et se répandre parmi les gens, et donc celui qui tue ne saura pas pourquoi il a tué, ni celui qui est tué ne saura pas pourquoi il a été tué. C'est ça le fitna. Tu te retrouves en train de tuer des gens, et les gens te tuent, toi tu sais même pas qu'est-ce que t'es en train de faire. Wal'adou billah min dhalik. Et il dit, repoussez-la, et éteignez-la avec la piété, et taqwa. Et Cheikh, il dit, et c'est comme si il leur répétait cela à tel point de nombreuses fois qu'ils l'ont dit quoi? Mais c'est quoi cette piété que tu nous dis? Décris-la nous. Hein, tu nous dis la piété, éteignez-la avec la piété, repoussez-la avec la piété. Mais c'est quoi cette taqwa que tu dis? Explique-la nous, définis-la nous, c'est quoi la taqwa? Tu nous as beaucoup répété ta réponse. Quelle est cette piété? Il répondit, et maintenant, pour les frères qui comprennent l'arabe, qui essaient de la retenir en arabe, pour les autres au moins en français. Il a dit, rahimahullah, التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله وفق نور سبب العلم مخافة عقاب الله. Regardez là, il vous a donné toute la taqwa en une définition très courte. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que même si elle est très courte, elle englobe, c'est une des meilleures définitions qui englobe le mieux la taqwa. Parce que les ulama, ils ont donné des définitions. Mais celle-là, ils disent qu'elle englobe vraiment toute la taqwa. Pourquoi? On va le voir qu'on va traduire, Inch'Allah. Il leur dit la piété, et Cheikh dit, telle est sa réalité de la piété, c'est de pratiquer l'obéissance à Allah. Comment? Ala nur min Allah, c'est-à-dire avec une science venant d'Allah. Parce que si tu n'as pas de science, tu ne sais pas obéir à Allah, tu ne sais pas c'est quoi l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu pries le maghrib 3 rak'at? Parce que tu as une science de ces 3 rak'at là. Parce que tu as des textes qui t'ont été rapportés. Pourquoi tu lèves tes mains de telle manière? Pourquoi tu, hein, pourquoi tu fais tel geste après, avant tel autre, ou tel geste après tel autre? Pourquoi tu dis telle chose? Parce que tu as ilm. Tu sais comment obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah t'a dit, waqimus salah, il t'a demandé de, d'établir la prière. C'est pas juste de prier, c'est de bien faire ta prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sallou kama ra'aytumuni. Ou salli, priez comme vous m'avez vu prier. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a écrit son fameux livre, Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte toutes les chaînes de transmission du début à la fin, et tu as toute la description de la prière, et ça a été traduit en français. En tout cas, l'édition en un tome, parce qu'elle existe en 3 tomes, 1200 pages. Il y a 100 pages juste sur le quoi, en arabe. 100 pages juste sur le quoi. Évidemment, ça c'est le niveau des ulama, etc., et des tullab ilm, etc., mais nous on essaie petit à petit d'évoluer dans notre prière. Qu'on la prie de mieux en mieux, hein, et avec plus en plus de détails, etc. Donc il a dit, avec une science venant d'Allah, pratiquer l'obéissance d'Allah, avec une science venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et la piété, c'est pas que ça, c'est aussi de délaisser la désobéissance à Allah. Parce que tu obéis à Allah, na'am, mais tu délaisses les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie du fait de lui obéir. Et la piété est donc de délaisser aussi la désobéissance à Allah avec une science venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. Parce que si t'as pas de science, comment tu veux savoir si c'est quelque chose que Allah il a interdit ou pas? Et que toi tu dois le délaisser ou pas? Tu peux délaisser quelque chose qui est autorisé pour toi. Et tu peux faire quelque chose qui t'est interdit parce que tu n'as pas la science de cela. Et cher Lib, telle est la piété. Pratiquer l'obéissance à Allah avec une science venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et la piété est de délaisser la désobéissance à Allah avec une science venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. Voilà le conseil qu'il leur fit quand il fait miséricorde. Il dit, atfi'uha bit taqwa. Cette fitna là, éteignez-la avec la crainte d'Allah, et leur définissez la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Et cher, il dit, وهذا الحد يعني في تعريف التقوى وبيان حقيقة التقوى أو حد التقوى قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الرسالة التبوكية قال هذا الحد أحسن ما قيل في حد التقوى ولا ينبئك مثل خبير. Cette définition de la piété et cette mise en évidence de la réalité de la piété, l'imam ibn al-Qayyim, quand il fait miséricorde, a dit à son sujet dans son livre Ar-Risala al-Tabukiyya, cette définition est la meilleure qui a été donnée à la piété. C'est un imam de la communauté qui vous dit ça. C'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, parmi ses contemporains, c'est Ibn Kathir et d'autres qui font aussi partie des élèves d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Qayyim, al-Jawziyyah, rahimahullah, il a dit, cette définition est la meilleure qui a été donnée à la piété. Et Cheikh, il dit, « Wa la yunabbi'uka mithlu khabir » et nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. « Aqul wa la yunabbi'uka mithlu khabir kal imam Ibn Qayyim, rahimahullah, l'arif » الخريت رحمه الله عليه رحمة الله عليه وصفها بهذا الوصف الجامع أحسن ما قيل. العبارات في حديث التقوى عديدة إلا أن هذا أحسن تلك العبارات. وقد ذكر هذا الحد أيضا الإمام المفسر ابن كثير في تفسيره عند آية وإياي فاتقون مقررا له. شيخ الدي جدي أني لو بدو دوني دي نوفال كم سلو كي بارفيتمون انفورمي كم ابن القيم رحمه الله لو كونيسور لإكسبيريمونتي كالو لي فاس ميزيريكورد. Il a décrit de cette description qui est générique. La meilleure qui a été donnée. Et Cheikh dit, les définitions de la piété sont nombreuses. Peut-être que quelqu'un va dire, remarquez, moi je connais autre définition. Mais oui, il y a plusieurs définitions. Hein? Mais cette définition est la meilleure. Elle a été aussi citée par l'imam Ibn Kathir dans son exégèse du Coran, Tafsir Ibn Kathir, qui est connu pour Tafsir Ibn Kathir, hein? Quand il a expliqué le verset de Surat al-Baqarah, verset 41, et c'est moi que vous devez craindre. Donc Ibn Kathir, il a rapporté aussi cette définition-là. Ibn Qayyim, il a rapporté cette définition-là. De qui? De Talq Ibn Habib. Et Cheikh, il dit, وَذَكَرَ أَيْضًا الْحَافِدَ الذَّهَبِي رَحِمَهُ اللَّهِ فِي سِيَرْ أَعْلَمْ نُبَلَى فِي تَرْجَمَةِ طَلْقِ فَقَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَبْدَعَ وَأَوْجَزَ يعني في العبارة أبدأ فيها وأوجزها قال فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بتراو من العلم والاتباع ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص للإخلاص لله لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. Regardez les paroles, comme disaient les ulama, les paroles des salaf depuis prédécesseurs, elles sont courtes mais elles sont fortes en sens. Et nos paroles à nous, elles sont larges, mais elles sont faibles en sens. L'imam Dahabi, rahimahullah, al-Hafid, al-Dahabi, rahimahullah, c'est un titre, al-Hafid. Il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde dans son fameux livre, Siyar A'lam Nubala, dans la biographie de Talq. Et j'ai parlé de ce livre tout à l'heure. Il excella et fut concis dans cette définition. C'est-à-dire, dans la formulation, il fut concis et excella. Et il dit, écoutez cette parole qui est magnifique, essayez de la retenir, ou en tout cas le sens. Il n'y a pas de piété sans action. Et pas d'action sans science. Ni suivi. Suivi du prophète, alayhi sallam. Et cela n'est utile qu'en étant sincère envers Allah. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les deux conditions, c'est le suivi, l'ikhlas, la sincérité et le suivi. Si une, tu es sincère, mais tu es pas conforme à la sunna, ton action, elle est batil, elle est mardouda. Comme l'a dit le prophète, alayhi sallam, man ahdata fi amrina hada malaysa min, fahuwa rad. Et l'imam Nawawi rahimahullah, il a dit, rad, ay, mardoudun ghir mu'taddin bih. Ou ma man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Si tu fais quelque chose, que tu es sincère pour Allah, mais c'est pas comme c'est dans la sunna, tu le fais pas de la manière dans la sunna ou c'est pas dans la sunna du tout, ton action est rejetée. Et en plus, tu as fait une innovation religieuse. Et de l'autre aussi, si tu as elle est conforme à la sunna, mais tu es pas sincère pour Allah, eh bien, ton action, elle est pas acceptée. Donc, il faut absolument qu'il y ait deux conditions. Et c'est pour ça qu'il a dit ici, et cela n'est utile qu'en étant sincère envers Allah et pas pour qu'il soit dit qu'un tel délai c'est désobéissance par la lumière de la science. Hein? C'est pas pour qu'on dise ouais mais un tel il a laissé parce que c'est haram. Non, il faut pas faire ça. Il faut faire ça pour Allah. Si tu délaisses quelque chose, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose d'interdit, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu le fais. Comme quand tu t'acquittes d'un acte obligatoire, tu le fais pour Allah azza wa jalla aussi. Et pas pour que les gens disent ouais, un tel il a fait tel acte, etc. Donc, cher, le Dahabi, rahimahullah, il a dit, par la lumière de la science. Car, les désobéissances, afin d'être délaissées, doivent être connues. Et le délaissement des désobéissances doit être crainte par Allah. Doit être crainte par crainte d'Allah. Non pas pour être complimenté sur leur délaissement. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, tu le fais par crainte d'Allah, et tu le fais pas pour être complimenté par les gens. Sinon, ça rentre dans quoi? Naam. Celui donc qui est continu dans cette application de cette recommandation aura réussi. Et cher Eddy, c'était donc quelques paroles des imams au sujet de la parole de Talq et leur reconnaissance qu'Allah leur fasse miséricorde, que cette parole fait partie des paroles les plus excellentes et les plus concises et les plus bénéfiques et les meilleures dans la définition de la piété. Maintenant, cher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré le contexte historique de la définition de la taqwa. On sait pourquoi ça a été dit, on sait dans quel contexte ça a été dit, on sait la grande fitna qu'il y a eu à l'époque, et qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont morts à cause de ça à cette époque, etc. Et que les gens sont venus à Talq pour dire qu'est-ce qu'on doit faire dans cette fitna. Il leur a dit, éteignez-la avec la taqwa. On a donné la définition de la taqwa, maintenant il convient de savoir c'est quoi son sens. Hein? Et Cheikh il dit, نأتي إلى معناها لتعريف دللت كلمة حقا في قولي اتقوا الله حقا تقاته. يقول رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله. إذن التقوى تشتمل على الإتيان بالأعمال ليست أقوال مجردة. عمل بطاعة الله ليس العمل أي عمل أي عمل، إنما عمل يقربك من الله. قوله بطاعة الله تدخل في جميع الأعمال التي تقربك من الله فردا كانت أم نفلا. فالفرائض والنوافل من صدقات وصلاة وزكاة ومساعدة للمحتاجين وغير ذلك وتعليم القرآن وتدريسه ونشر العلم والخير كل هذا يدخل تحت ماذا؟ عمل بطاعة الله. فلفظ طاعة الله شامل لجميع الفرائض والنوافل التي تقربك من الله جل في علاه. venons maintenant à son sens, la taqwa, de cette piété. C'est quoi la piété? Pour connaître le sens de, comme on a dit tout à l'heure, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Ça veut dire quoi ça? Haqqa tuqatihi. Crains Allah comme il doit être craint. Mais ça veut dire quoi comme il doit être craint? Venons maintenant à son sens afin de connaître le sens de comme il doit être craint. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. La piété, c'est de pratiquer l'obéissance à Allah. L'obéissance à Allah ou l'obéissance d'Allah. Donc, la piété englobe la pratique par les actes et n'est pas que des paroles. Ça, c'est important de comprendre aussi. C'est des actes, c'est pas que des paroles. Pratiquer l'obéissance d'Allah. Et la pratique n'est pas n'importe quelle pratique. Ce n'est que la pratique qui te rapproche d'Allah. Ce n'est que la pratique qui te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sa parole, l'obéissance à Allah, sont comprises dans cette parole toutes les actions qui te rapprochent d'Allah, que ce soit les actes obligatoires ou surrogatoires. Je sais pas, pour les frères un peu plus jeunes, etc., c'est ce que ça veut dire surrogatoire. C'est tout simplement pas obligatoire. Il y a des actes en islam qui sont pas obligatoires. Hein? Par exemple, maintenant, et ça, normalement, c'est une sunna qu'on devrait faire, c'est que, ce qu'on appelle par exemple sunan al-rawatib. Vous savez c'est quoi le rawatib? C'est les salawat compris, avant ou après les al-fara'id. D'accord? Par exemple, un exemple, après le maghrib maintenant, surtout pour les frères qui sont résidents, il y a une sunna pris après le maghrib. C'est quoi? C'est ratibat le maghrib. Et c'est combien de rak'a? Deux. Il faut faire ça. Et Cheikh Fall Asmal, dans le cours, il a vu beaucoup de monde, il a dit, les frères, vous êtes tous voyageurs ou quoi? Il n'y a personne qui prie la sunna. Et bah, sunna, 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 pas que des paroles, l'action. Le sunni, il est haris à la sunna. Wa ahras à la sunna min ghayrihi. Et vous voyez, les ulama de la sunna, ils sont harisines dans l'ittiba. Chaque chose que le prophète, ils essaient de le faire. Chaque chose qu'il a faite, ils essaient de le faire. Chaque chose qu'il a dite, ils essaient de le dire. Il faudrait faire un cours d'abord sur Rawatib. Je pense qu'il a été traduit en français. C'est Boulour al-Maram. Vous connaissez Boulour al-Maram? De qui? De l'Hafid Ibn Hajar al-Asqalani. Comment ils appellent ça? La réalisation du but, c'est ça, en français. La réalisation du but. Boulour al-Maram, c'est un livre qui est très connu dans l'Ahkam. Tahara, Salah, Zakat, etc. Et Ibn Hajar, c'est un grand muhadith. Il a jamais des hadiths. Et les ulama l'ont expliqué. Il y a des hadiths sur ça, sur Rawatib. Et comment les prier, etc. Et au cas, par exemple, où t'as raté Ratibat al-Dhuhr qui était avant, qu'est-ce que tu pries après Dhuhr? Est-ce que tu pries directement celle qui était avant ou celle qui normalement qui devait venir après? Les ulama, ils ont discuté de tout ça. Et il faut savoir ça. Donc il y a des actes, quoi, on a dit, qui sont obligatoires et des actes qui sont surrogatoires, ni qui ne sont pas obligatoires. Et donc la ta'a d'Allah Azza wa Jal, c'est que tu actes et que tu fasses, tu pratiques l'obéissance à Allah, eh bien c'est tous ces actes-là qui sont obligatoires ou non obligatoires. Obligatoire ou non obligatoire, c'est ça qui veut dire le shirk ici. Les obligations et les actes surrogatoires d'aumônes et de prières. Par exemple, dans la zakat, il y a une zakat qui est obligatoire, mais aussi des sadaqat qui ne sont pas obligatoires, qui sont quoi? Naam. Donc il y a différents types d'ibadat. Il dit d'aumônes, de prières, de zakat et d'aider les gens, ceux qui sont en besoin, les nécessiteux, etc. L'enseignement du Coran, ça rentre là-dedans aussi, et la propagation de la science et du bien, tout cela entre dans quoi? Dans pratiquer l'obéissance à Allah. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très large. Mais on a dit quoi? Attention, pour que ce soit une obéissance à Allah, ça doit être quelque chose qui te rapproche d'Allah. Or, on a dit que ce qui n'est pas sincère, ça t'approche pas d'Allah, ça t'approche pas d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'il n'est pas conforme à la sunna? Ce n'est pas quelque chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, on ne veut pas faire un dars trop long, déjà qu'il est déjà très long, mais, Cheikh Al-Uthaymeen, par exemple, dans le Sharh d'Arba'in Nawawiya, il a rapporté 6 choses dans lesquelles un acte d'adoration doit être conforme à la sunna. Il a cité parmi nous le temps, le lieu, etc. Donc, je ne veux pas le faire à Hajj, je ne veux pas le faire à Dakar, au Sénégal. Vous rigolez, mais il y en a qui le font, dans certaines sectes, etc. Tu peux être sincère tant que tu veux. Le Hajj, il a une place, il a un temps, il a des ibadat spécifiques. Le nombre aussi, le cheikh l'a cité. Si tu fais le maghrib, tu es sincère pour Allah, mais tu fais 4 rak'at le maghrib. Muta'abidan, yani que tu le fais par intention. C'est pas maqboul de toi, le maghrib c'est 3 rak'at. Etc. Donc les ulama, ils expliquent que les actes d'adoration, ils doivent être conformes à la sunna en 6 points. Retournez à l'explication de l'Arba'in Nawawiyya de Cheikh Al-Uthaymeen. Rahimahullah. Et Cheikh, il dit, donc pratiquer l'obéissance d'Allah. La parole obéissance à Allah englobe toutes les obligations et les actions rogatoires qui te rapprochent d'Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Donc la piété est une pratique des actions, et il dit au sujet de cette pratique, pratiquer l'obéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah. Quel est le sens de lumière ici? C'est quoi? C'est ilm. Ala nourin min Allah. L'ilm. C'est-à-dire que ces actions que tu pratiques soient basées sur une science. C'est pour ça que pour notre problème, nous, c'est qu'on ne lit pas les livres de la Sunna. Même si des fois on se revendique de la Sunna, hein, on n'ouvre pas trop les livres de la Sunna. Si vous ouvrez Sahih al-Bukhari, vous allez voir qu'il y a un chapitre qui a pour titre « Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal ». Et puis il a mis un verset du Coran, l'imam Bukhari, rahimahullah. Sahih al-Bukhari, les ulama disent que c'est le livre le plus authentique après le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. J'ai dit après le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Eh, ad-dun, habis, machin, mushkil, barakallahu fik.